Baladomélie, courte méditation exégétique.
Bonjour, bienvenue, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose de sillonner les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, cinquième dimanche de carême. L'heure est venue. L'heure est venue d'autre chose, d'une vie nouvelle, d'une alliance nouvelle. C'est ce que nous annonce le prophète Jérémie avec cet oracle fameux au milieu de son livre. L'oracle dit de la nouvelle alliance. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est la seule fois que cette expression est employée dans les prophètes. La seule fois. On la retrouve après cela dans l'évangile de Luc et chez l'apôtre Paul. Dans quel contexte cet oracle est-il prononcé ? Vraisemblablement après la chute de Jérusalem en 587, quand le prophète Jérémie, avec un certain Godolias, nommé gouverneur par Nabuchodonosor, tente de remettre en avant le peuple, de se prendre soin des gens qui sont restés. On évoquait la semaine dernière la déportation en disant que 10% du pays, du peuple, a été déporté à Babylone. Ça veut donc dire que 90% sont restés. Godolias, entouré d'un certain nombre de personnes, dont Jérémie, veut prendre soin de ces gens. Et Jérémie dit « Voici venir les jours pour une nouvelle alliance ». Une nouvelle alliance qui marchera cette fois-ci. La chute de Jérusalem, la destruction du Temple sont le signe d'un échec. Et donc, pour que cette alliance marche, il y a trois caractéristiques qui sont mises en avant. La première, c'est qu'elle sera intériorisée. L'alliance, la loi sera intériorisée. La loi sera gravée sur le cœur. Il viendra spontanément de pouvoir la suivre. Ce ne sera pas quelque chose d'extérieur qui s'impose, non, ça vient de l'intérieur et on pourra le suivre. La deuxième caractéristique, c'est que tous connaîtront le Seigneur. Tous, du plus petit au plus grand, tous dans le peuple, pourront faire par eux-mêmes l'expérience de l'intimité et de la protection de Dieu. C'est cela que signifie le verbe connaître, vivre l'intimité et la protection. Troisième caractéristique, cette alliance, elle repose sur le pardon. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Voilà, cette nouvelle alliance, le fait même qu'il y ait une nouvelle alliance après la rupture d'une première, indique qu'il y a une expérience de pardon sur laquelle repose l'alliance. Et puis il y a une quatrième composante. C'est que normalement, dans un traité d'alliance, on commence par raconter le passé. Ah, ben il y avait un tel, et puis ça s'est passé comme ça. On pourrait raconter Abraham, Moïse, David, je ne sais pas qui. Et là, on mentionne simplement l'échec. La nouvelle alliance invite à se tourner vers l'avenir. La nouvelle alliance ne fait pas mémoire d'un passé. La nouvelle alliance nous invite à faire mémoire de notre avenir. C'est une phrase d'un rabbin juif du XVIIe siècle qui parle du sabbat. Vivre l'alliance avec Dieu, c'est trouver dans l'avenir les signes par lesquels il va tenir sa promesse envers son peuple. L'heure est venue de cette nouvelle alliance. Et pour cela, il nous faut regarder la personne de Jésus que la lettre aux Hébreux nous présente comme étant un prêtre. C'est une manière, il faudrait prendre longtemps pour le regarder, c'est une manière de présenter Jésus dans sa résurrection en disant que Jésus est prêtre. C'est assez inattendu. On est, nous, habitués à cette idée-là, mais c'est inattendu. Dans ce texte spécifiquement, on nous raconte Gethsémani, pendant les jours de sa vie avec pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit avec grand cri des larmes, des prières, des supplications. C'est Gethsémani. Gethsémani à laquelle, le moment durant lequel Jésus décide définitivement d'obéir au Père et de laisser sa vie livrée aux mains des hommes pour que le Père le relève le troisième jour. Et on nous dit que par cette obéissance, hein, par ce grand respect, non, c'est plutôt l'obéissance, il a appris, il a atteint la perfection. Alors, il ne s'agit pas d'une perfection morale. Le Christ n'est pas, c'est pas la souffrance qui fait la perfection morale du Christ. Il faut évacuer cette idée-là. Le mot perfection est un terme technique que l'on utilise pour parler du rite initiatique des prêtres. Quand les prêtres dans l'Ancien Testament recevaient l'investiture, ils avaient un certain nombre de rites à faire, de sacrifices à faire, ils étaient revêtus des vêtements sacerdotaux, et ça se terminait par la réception dans leurs mains de l'offrande qu'ils allaient devoir verser sur l'autel pour offrir pour la première fois de leur vie leur sacrifice. Des choses un peu semblables se retrouvent dans l'ordination, dans la célébration catholique d'ordination d'un prêtre. Hein? Eh bien, la perfection, c'est le terme de cette initiation. Pouvoir saisir à pleine main l'offrande du peuple de Dieu. Dans son obéissance à Gethsémani, Jésus se saisit à pleine main de cette humanité souffrante pour l'offrir au Père, pour la présenter au Père et pour supplier le Père de la bénir et de lui donner la consolation. Jésus saisit à pleine main l'offrande qu'il fait au Père, c'est-à-dire son humanité et à travers son humanité, notre humanité. Jésus est ce prêtre d'une présence absolue, puisqu'il s'offre lui-même, qui permet que, avec lui, il y a le point de départ d'une vie donnée. Donnée à Dieu, donnée aux frères, mais une vie donnée, donc une vie remplie, belle et libre. Voilà le moment venu, avec l'offrande que fait Jésus, de pouvoir prendre notre vie en main et l'offrir. L'évangéliste Jean nous rapporte la réaction de Jésus à sa manière quand l'heure est venue. On est au chapitre 12, juste avant que Jésus n'entre dans sa passion au chapitre 13, c'est-à-dire qu'il la sait maintenant inéluctable. On nous a raconté au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10, comment à maintes reprises on a failli arrêter Jésus, mais qu'à chaque fois son heure n'était pas venue, et que donc il ne s'est pas fait arrêter, il ne s'est pas laissé arrêter. On a pu pousser un peu des coudes hein, pour que ça se passe comme ça. Mais maintenant, Jésus est face à la mort. Il sait que son Père veut qu'il soit livré aux mains des hommes pour qu'il soit ainsi relevé le troisième jour. Et dans cette certitude-là, Jésus donne une clé à ses disciples. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il tombe en terre, s'il meurt, il porte du fruit et du fruit en abondance. Le grain, c'est Jésus. Jésus donne un sens à sa mort. Sa mort, c'est comme le grain qui tombe en terre, il va porter du fruit. Ce verset que nous rapporte cet évangile a des résonances, des accointances avec une autre phrase bien connue de la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Jésus, en acceptant sa mort pour nous, ne veut pas être le seul fils du Père. Il veut pouvoir offrir des frères et des sœurs à son Père. Il sait que la volonté de son Père, c'est que nous soyons ses fils et ses filles. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que le fils reste le seul fils. Le bonheur de Dieu, c'est de conduire à la vie éternelle une multitude de fils et de filles. Alors que reste-t-il pour le disciple de Jésus maintenant que l'heure est venue? C'est le service. Celui qui me sert mon Père l'honorera. C'est dans le service de Dieu et des hommes que nous allons pouvoir, tout un chacun, nous mettre dans cette position qui va nous permettre d'accueillir l'espérance de Jésus, une multitude de frères et sœurs à offrir au Père. C'est dans le service que nous allons être amis de Dieu pour servir les hommes, serviteurs de Dieu par amitié pour les hommes. Et dans ce mouvement-là, nous allons pouvoir découvrir ce que Jésus espère, être glorifié. Le mot gloire, en hébreu comme en grec, est un mot qui renvoie au poids, à l'importance. Notre vie va prendre toute son importance dans le service de Dieu par amitié pour les hommes, dans le service des hommes par amitié pour Dieu. C'est ça qui rend la vie belle, lumineuse, parce que donner, c'est ça, commencer ce chemin de glorification, et l'heure est venue pour que cela commence. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à bientôt, bonne semaine et bon dimanche.